6h-9h le samedi. L'époque.
Et elle a passé, elle s'effondre.
Limitante ou utile, parfois même essentielle, la douleur fait partie intégrante de la vie d'un sportif d'élite.
Il n'y a pas que la douleur, il y a aussi des émotions qu'on ressent. Qu'est-ce qui nous pousse à continuer cet effort ?
Mirkel est incroyable. Presque 20 ans, on est ensemble. Ça m'a donné énormément de solidité.
Deux choses moi que j'ai retenues, c'est de se lâcher et de prendre du plaisir.
Rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Il te faut un mental à toute épreuve.
Dans les spectacles, il y a le public et on doit faire abstraction de toutes les difficultés techniques. On doit simplement partager ce moment de faire rêver.
Le plus important, c'est de le faire et de savoir qu'il n'y a aucune garantie de résultat. Mais il faut l'accepter tous les jours.
Que se passe-t-il dans la tête d'un champion ? Qu'est-ce qui pousse une personne à s'entraîner durement, quotidiennement ? D'où lui vient cette force qui lui permet de dépasser la souffrance, la lassitude, la pression ? Alors que certains d'entre eux pédalent en plein Tour de France, que d'autres tapent la balle à l'US Open et que quelques-uns ont renoncé pour cause de Covid ou de blessures, on va s'intéresser dans la prochaine demi-heure aux champions, à leur psychologie, aux leçons aussi que nous pourrions peut-être en tirer, nous toutes et tous, hors des terrains et salles de sport, pourvu qu'on soit bien coacher, évidemment, le coaching, passer du domaine sportif à celui de l'entreprise, de nos vies quotidiennes. Ça, c'est un des sujets que vous aborderez dans quelques minutes. Virginie Langeroc, bonjour.
Bonjour.
Notre chroniqueuse ce matin en studio, ainsi que Henri Buxon, bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone, notre invité, c'est vous, Hubert Ripoll. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis, je crois, le sud de la France, hein? Où vous trouvez ?
Exactement.
On n'entend pas les cigales à vos fenêtres, mais on va l'entendre dans votre voix, je crois. Vous êtes professeur honoraire à la Faculté des sciences du sport à l'Université Aix-Marseille. Vous êtes psychologue du sport, une spécialité dont vous êtes l'un des pionniers. Vous avez fondé le premier laboratoire français de psychologie cognitive appliquée au sport. Vous avez une longue expérience dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Actuellement, vous suivez notamment des champions et championnes de tir. Vous en avez suivi beaucoup d'autres avant, olympiques, champions du monde, des sportifs dont on retrouve les témoignages dans votre nouveau livre intitulé « Les champions et leurs émotions, comprendre la maîtrise de soi ». Il vient de paraître aux éditions Payot. Alors d'abord, la question toute simple, c'est quoi un champion ? Enfin, la question est simple, mais faussement simple. Vous l'avez posée autour de vous, Henri Buxon.
Oui, qu'est-ce qu'un champion ? Que faut-il pour être un champion ? Quel est votre champion préféré ? Puisqu'on est en Suisse, je m'attendais à ce qu'on me dise Federer. Eh bien, j'ai été très surpris. Et puis surtout, c'est cette petite flamme que les champions, que tout le monde semble avoir, cette petite flamme de champion qu'on semble tous avoir en nous, cette petite âme d'enfant. Comme Sébastien, que j'ai rencontré dans son shop de tatou à Vevey, il nous confie ce qu'est pour lui être un champion.
Pour moi, je pense que c'est nutrition, sommeil, régularité dans le sport de ce qu'on a envie de faire. J'ai vécu ça quand j'étais jeune. C'est être régulier dans tout ce qu'on fait.
C'est pas lié au résultat ?
Alors, oui, par la suite. Mais moi, je me souviens, en fait, c'est entraînement. Et après, automatiquement, les résultats viennent.
Quel est votre champion préféré ?
Alors maintenant, je pense que je suis plus le MMA, donc McGregor. C'est vrai qu'avant, j'étais pas mal dans les sports collectifs, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime bien suivre.
Et pourquoi ?
Au fait, il est arrivé de rien. Alors c'est vrai que maintenant, il a un comportement un petit peu différent qu'avant, mais c'est vrai qu'il a un parcours quand même assez atypique, c'est qu'il est parti de rien, il avait rien. Et c'est à force justement des entraînements, qu'il est arrivé à ce qu'il est, quoi.
Et vous, est-ce que vous auriez voulu être un champion ?
Alors maintenant, peut-être plus. Par contre, à l'époque, oui. Parce qu'on m'a vraiment un petit peu, couvé pour que je fasse énormément de sport. Donc oui, à l'époque, oui. On a tous envie d'être un champion, d'être idolâtré ou admiré. Maintenant, ça m'a passé. Maintenant, l'important, c'est pour le bien de soi-même, faire du sport.
Je vous demandais juste comment vous vous appelez ?
Saïda.
Saïda, qu'est-ce que c'est pour vous un champion ?
C'est quelqu'un quand même qui a réussi à déjà surpasser lui-même ses propres records et arriver quand même à un niveau mondial et quand même le garder le plus longtemps possible. Pour moi, ça, c'est un champion.
Qu'est-ce qui fait qu'on devient champion, à votre avis ?
Il n'y a pas de secret, c'est le travail, la persévérance. Si on lit toutes les biographies de tous les champions du monde, et pas forcément encore dans le sport, c'est ça. C'est une persévérance et on vient suivre son objectif. Et je crois qu'il y a pas mal de sacrifices. C'est ce qu'ils disent tous, en tout cas.
Est-ce que vous admirez un champion ?
Jordan, c'était mon préféré dans le temps.
Et pourquoi Michael Jordan ?
Je sais pas, à l'époque, je suivais un petit peu de basket, c'était admiratif. On restait jusqu'à 1 h 30 pour regarder les matchs. Et en plus, c'est quelqu'un aussi qui avait un message à donner. Pour moi,
c'est-à-dire
c'était ça. Je ne sais pas, c'est des sportifs qui ont influencé toute une génération. Pour moi, c'était ça. Mohamed Ali aussi. Voilà.
Est-ce que vous auriez, vous, personnellement, voulu être une championne?
Ouais, à un moment donné. Mais je n'avais pas la persévérance. Peut-être aussi pas l'environnement qu'il fallait. Mais...
Vous pensez qu'on est tous quelque part envieux de ça, de ce statut de star, de champion?
De star, je ne sais pas, mais de son propre champion, oui. Dans chacun de nous, il y a cet enfant-là qui voulait ressembler peut-être à quelqu'un ou vouloir être quelqu'un sans ressembler à qui que ce soit. Et après, c'est la vie qui prend le dessus. Alors, c'est là où est la persévérance.
Je peux me demander comment vous appelez ?
Théo.
En fait, je vais vous demander, qu'est-ce que c'est pour vous un champion ?
Un champion dans le sport, c'est quelqu'un qui a réussi à passer plein d'étapes. Je pense qu'il y en a peu qui arrivent vraiment à devenir des champions. Et je crois que c'est quelqu'un qui a la capacité de se discipliner, de se focaliser sur son but, de ne pas se faire avoir par tous les pièges qu'il peut y avoir en chemin, et puis de tenir bon jusqu'à réaliser son rêve, quoi. Je pense que c'est ça, un champion.
Qu'est-ce qu'il faut, du coup, pour vous, pour être un champion ?
Il faut une mentalité d'acier, vraiment. Il faut un peu de chance, toujours. Et puis, à nouveau, la passion aussi, je pense. Quand on parle de sport, bah, c'est d'être passionné par son sport et puis de chercher l'excellence, toujours.
Si vous deviez citer un champion, ce serait lequel pour vous ?
On est à Vevey, donc on va mentionner un champion local. Je dirais que Thabo Sefolosha, qui est le pionnier, le premier Suisse à avoir réussi à percer pour arriver jusqu'en NBA. Je crois qu'ici, sur ces terres, je pense qu'il faut lui rendre hommage.
Est-ce que vous, personnellement, vous auriez voulu être champion ?
J'aurais adoré être champion, ouais. J'aurais adoré.
De quoi ?
J'aurais bien voulu être champion d'un sport très, très difficile.
Voilà. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait ?
J'ai pas eu vraiment ce focus sur vraiment le sacrifice du reste pour croire dans un rêve ou l'autre, quoi. Voilà.
Voilà, une approche de champion, et on a entendu que tout le monde a son avis sur la question, ce qui fait un champion ou une championne. Hubert Ripoll, je vous pose la question maintenant, c'est quoi alors un champion ?
Ah, vous me demandez quelque chose de très difficile, de résumer en une phrase ce que les personnes qui ont été interviewées, interrogées ont décrit en beaucoup de mots. Pour aller au plus vite, je dirais qu'un champion, c'est quelqu'un qui est capable d'endurer pour durer dans la poursuite d'un but. Mmh. Endurer pour durer.
La toute première phrase de votre livre, je la cite, « On ne naît pas champion, c'est évident ». Alors oui, c'est évident, mais est-ce que ça veut dire, pour autant, Hubert Ripoll, qu'on peut tous le devenir ?
J'ai vu beaucoup d'athlètes bourré de qualités dont on pensait qu'ils deviendraient des champions et qu'ils ne l'ont pas été. Et j'ai vu beaucoup d'athlètes qui n'avaient pas ces qualités, apparemment, et qui le sont devenus. Mmh. Ce qui me permet de dire que, hormis obstacles particuliers, tout le monde est capable de devenir un champion dans une activité à condition de la trouver.
Oui, alors il y a quand même des qualités, un moteur spécifique hein, que vous présentez. Alors c'est très étonnant, en tout cas j'ai été très étonnée, puisque dès les premières pages, vous mettez immédiatement en avant la fonction de l'imaginaire. C'est lui qui serait, selon vous, le principal moteur des champions, c'est-à-dire ?
L'un de vos interlocuteurs a dit « je n'avais pas le focus ». C'est-à-dire, dans le focus, il y a la vision de quelque chose. La poursuite de quelque chose, Cervantes dirait l'inaccessible étoile. Et donc, ce qui caractérise ces champions, c'est cette capacité à avoir un objectif à long terme, une peut-être inaccessible étoile, et cette inaccessible étoile, c'est l'imaginaire qui lui donne corps. C'est quelque chose qui se passe très tôt dans la vie d'un individu et qui va le déterminer à endurer, pour durer, pour s'approcher au plus possible de cette inaccessible étoile.
Mmh. Oui, ça commence très tôt. D'ailleurs, vous insistez hein, dans votre ouvrage, et les témoignages qui paraissent en témoignent, de l'importance de la toute première émotion forte liée à leur sport. Ça serait, elle, l'émotion motrice, disons, et ils essaieraient sans cesse de la reproduire, de la retrouver. Ce serait le but, cette inaccessible étoile, c'est cela ?
Oui, absolument. Je suis arrivé là, chez les champions, en passant par d'autres numéros 1 dans d'autres domaines. les domaines de la création notamment. Et c'est clair qu'il n'y a pas de créateur s'il n'y a pas au début et très tôt dans l'enfance une émotion que j'appelle une émotion créatrice et qui va embraser le système, qui va mettre le feu à un processus. Et pour les sportifs, c'est exactement la même chose.
Mmh. Mais encore faut-il ensuite garder cette flamme intacte, hein, cet imaginaire, cette motivation. C'est là qu'on pêche le plus souvent, nous toutres pauvres terriens. Henri Buxan, sportif, veut vous interpeller là-dessus.
Moi, ce qui m'impressionne à chaque fois quand on parle justement de cet objectif à atteindre, c'est de se relever après les échecs et les blessures, parce que les sportifs de haut niveau se blessent souvent, ils doivent souvent tout recommencer, on va pas dire à zéro, mais pas loin. Et comment est-ce qu'ils trouvent justement cette énergie, cette envie de poursuivre leur but?
Je l'ai déjà dit, endurer pour durer, c'est ce que vous dites vous-même. Alors comment font-ils? Tout dépend de leur capacité à être en équilibre dans le système. Le système, c'est tout ce qui les entoure. Évidemment, c'est la fédération, c'est le public, c'est les sponsors, c'est la famille, c'est le boulot, c'est tout ce qu'il y a autour. Et donc, il faut d'abord être en équilibre dans le système. Si le système est en déséquilibre, les choses deviennent très très compliquées. Donc, il faut entourer le champion d'un environnement dans lequel il va se retrouver. Et ils disent souvent, je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Autrement dit, pour être moi-même. Et ça, c'est une des conditions.
Mmh. Mais là, on parle du champion, on ne parle pas de la personne qui est passionnée et puis qui cherche justement à se dépasser, peut-être à atteindre des résultats dans des disciplines où il n'y a pas cet entourage.
Les numéros 1, et les champions en sont, les numéros 1 ne sont que le révélateur de ce que nous sommes tous. Bien entendu, ils poussent au paroxysme des processus qui nous habitent. Et en comprenant comment fonctionnent les champions, on arrive à comprendre comment on en fonctionne soi-même, bien entendu, sans aller dans les contrées invraisemblables dans lesquelles vont les champions pour atteindre leurs objectifs. Mais ils sont d'excellents révélateurs de ce qu'est l'être humain.
On pourrait penser aussi, Hubert Ripoll, que ce qui motive les champions, c'est quand même une question d'ego, l'esprit aussi de compétition, c'est ça leur moteur, le désir de domination des autres, hein, poussé, oui, par un ego fort qu'il faut satisfaire. Mais vous écrivez que non, ça c'est vraiment minoritaire. Vous êtes sûr de cela?
Ben écoutez, depuis à peu près 50 ans où je suis des champions de haut niveau, j'en ai rencontré des centaines et des centaines et... Et je pense être sûr de cela. Mmh. Si on questionne un jeune enfant, bien sûr, il veut se distinguer des autres, il veut briller, mais l'objectif n'est pas d'être champion olympique. Ça, c'est quelque chose qui arrive très très tard, lorsque on sait que l'on peut le devenir parce qu'on est dans les meilleurs. Alors, bien entendu, c'est pas le cas de tout le monde, et certains vont vouloir devenir champion pour renforcer leur ego. Et de manière quasi systématique, je peux dire quasi systématique, ceux qui, dès le départ, sont animés par ce besoin de réussite sociale, on va dire de recherche de profit symbolique. Être le premier ou gagner de l'argent. Et notamment être le premier, ceux-là sont des personnes qui, généralement, ont été affectivement blessées, et affectivement blessées dans le milieu familial. Et donc, ils ont une image d'eux-mêmes qui leur a été renvoyée et qui est difficilement acceptable. Et ils vont sans cesse, tout au cours de leur carrière et de leur vie, essayer de conforter cette image pour montrer qu'il n'est pas la personne que l'on a cru voir en elle. Et donc, ceux-là, oui, vont se tourner vers une recherche de satisfaction de l'ego.
Et le champion que vous présentez, Hubert Ripoll, dans votre ouvrage, celui aussi qui est aimé, valorisé par le public, au contraire, on voit que c'est davantage, disons, un as de la quête d'équilibre. Hein. Vous avez utilisé ce mot très important pour vous, en tant que coach aussi, donc l'équilibre des émotions. Pourtant, il existe aussi nombre de sportifs aux performances exceptionnelles qui ont montré un tout autre visage du champion, hein, Virginie. Vous nous en offrez une galerie de portraits peut-être ?
Alors oui, vous vous souvenez peut-être du coup de tête malheureux de Zidane. C'était pendant la Coupe du Monde de football de 2006, un débordement qui avait été particulièrement médiatisé. Le champion toute catégorie, c'est bien sûr le joueur de tennis McEnroe. Des dérapages verbaux, des raquettes jetées au sol, il déborde lui de colère infantile. Il a même envoyé une balle dans le visage d'un spectateur, ce qui lui avait valu une amende et d'être suspendu pendant un mois. Dans le tennis, y a régulièrement des gros accès de colère. L'Australien Nick Kyrgios, qui était coutumier des déclarations emportées, il déborde assez vite comme du lait sur le feu. Il a été jusqu'à lancer sa chaise sur le court par dépit pendant qu'il perdait un match. Parfois, la pression est trop forte. Alors même les plus calmes et les plus placides des joueurs ont aussi leur coup de sang. Et oui, même Federer, qui est si calme sur les courts de tennis, sort lui aussi du cadre, ça lui arrive. Il a déjà lancé une balle dans le public, il a aussi passé ses nerfs sur sa raquette et lui aussi proféré des jurons.
Mais quoi, il n'est pas parfait, mais c'est pas possible.
Et puis, on peut citer un cas dans le cyclisme. Jérémy Santucci a cassé son vélo en deux de rage. C'était pendant un critérium à Milan. Il a donc jeté par terre son vélo qui s'est vraiment cassé en deux après avoir franchi la ligne d'arrivée. Il avait chuté dans la course, donc il avait vu s'envoler toute possibilité de gagner. Voilà, des exemples, il y en a à l'appel. Parce que même si les champions apprennent à repousser la pression, à avoir un mental d'acier, eh bien c'est très dur, hein, comme pour tout le monde, de devoir pousser leur corps au maximum de ses limites, de résister à la médiatisation, d'enchaîner les entraînements à un rythme très soutenu. Certains ont aussi tellement de colère en eux ou d'obligation de réussir qu'à un moment donné, ils implosent. D'autres vont manifester leur ras-le-bol autrement, plus calmement. Ils peuvent avouer leur découragement. André Agassi, qui a quand même été jusqu'à remporter 60 titres, dont 8 grands chelems sur des courts de tennis, a fini par avouer, il faut le faire, qu'il détestait jouer au tennis après toutes ces années. En fait, il avait surtout très peur de contredire son père. Alors, encore heureux, ces sportifs, ces demi-dieux du stade sont juste un miroir. Votre invité l'a dit, comme les héros grecs, à la fois capables de se dépasser et de flancher, parfois, comme tout un chacun.
Hubert Ripoll, la colère, la rage, la haine, le désir de satisfaire juste son père, hein, pour le cas d'André Agassi, ça peut aussi être des moteurs, non ?
Des moteurs ou des obstacles, tout dépend de ce que l'on fait de cela. Vous avez cité McEnroe, il fait partie de ceux qui très certainement, au moins pour McEnroe, je ne l'ai pas rencontré, mais pour d'autres que j'ai connus, c'est que l'agressivité tournée vers autre, vers l'arbitre, vers le public, vers l'adversaire, c'est ce qui permet d'entrer dans l'état modifié de conscience adapté. Donc pour gagner, il faut être dans un état de conscience tout à fait particulier, optimal, et c'est une façon d'y entrer. Après, les choses sont différentes pour d'autres qui, à un moment donné, perdent les pédales. Le coup de tête de Zidane, c'était pas pour ouvrir vers quelque chose de nouveau, mais c'était pour mettre fin à sa carrière. Alors, je ne dis pas que c'est volontaire.
Un acte manqué, vous dites, en gros.
Oui, c'est un acte manqué. Et bon, on pourrait faire toute une émission là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai analysé pendant des semaines et des mois.
Rendez-vous est pris.
Question-là. Mais bon, voilà.
Votre souci de cet équilibre, hein, des sportifs qui est au cœur de votre ouvrage, hein, quand même, qui a pour sous-titre comprendre la maîtrise de soi. Hein. Ce souci de l'équilibre, il tient au fait que vous êtes psychologue, vous avez participé au balbutiement de la psychologie du sport. C'était dans les années 60-70. Et c'était pas facile, j'imagine, de faire accepter cette approche par le monde du sport?
Bon, c'est absolument impossible. Absolument impossible. Le monde du sport, quand je dis le monde du sport, c'est les dirigeants sportifs, les dirigeants sportifs français ont été vraiment obstinément opposés à toute incursion du psy dans la préparation des athlètes. Ça a été un ostracisme absolument épouvantable. Je le sais parce que j'ai entrepris de très très nombreuses démarches à cette période avec tous les milieux du sport français, des ministres aux directeurs techniques nationaux, et j'ai toujours eu une fin de me recevoir. Alors, plusieurs raisons, bien entendu. Moi, j'en vois d'abord une. Le sport français n'est pas né dans la gentry, c'est-à-dire dans l'université, hein, comme dans des clubs anglais. Le sport français est né dans l'armée. et on faisait de l'activité, c'est devenu du sport, pour être fort. Et être fort, c'était pour être utile. Pour être utile, c'était pour monter au front. C'était pour défendre le pays. Voilà, la culture du sport français, au départ, elle est militaire. Et quand on est militaire, n'allez pas me raconter que pour monter au front, il faut avoir un psy adapté et qu'il faut prendre soin du psy de vos soldats. Non. C'est de la chair à canon, ils sont là pour monter au front, et s'ils n'ont pas le moral, ils peuvent toujours prendre un coup de gnôle. Mmh. Bon, j'exagère, bien entendu, mais ça, c'est ce qui est solidement ancré. Alors, à l'époque, dans les années 70, il y avait encore de nombreux militaires qui étaient passés du côté du sport et qui entraînaient au plus haut niveau ou qui avaient des fonctions importantes. Le colonel Crespin, par exemple, qui a géré la délégation qui a été à Rome en 1960. Le colonel Crespin, bon, voilà, quel rapport avec le sport ? Si, l'armée. Alors, aller expliquer que le psy sert à ces gens-là, c'est absolument impossible, et c'est cette culture qui a été le plus profond obstacle, de mon point de vue, à l'incursion de la psychologie du sport dans le domaine.
Mmh. Alors, il y a eu un revirement depuis, en tout cas une évolution, puisque on voit comment le coaching que vous pratiquez aussi en tant que psychologue aussi du sport, Hubert Ripoll, il séduit depuis quelques années bien au-delà du monde du sport. Donc vous intervenez aussi en tant que conférencier, coach dans les entreprises auprès de patrons. Ce glissement, Virginie, vous êtes penchée sur ses origines.
Alors a priori, le monde du sport et de l'entreprise n'ont pas beaucoup en commun, mais finalement, ça fait plusieurs décennies que bon nombre de chefs d'entreprise ont compris que les valeurs qui réussissent aux sportifs, le travail en équipe, la cohésion, le fait de se fixer un objectif et de s'y tenir, la motivation, le bien-être, on peut en citer beaucoup, la gestion de l'effort sur le long terme, l'analyse des échecs, ça c'est très important, tout ça ce sont des valeurs qui sont aussi bien applicables au sport qu'à l'entreprise, c'est des valeurs humaines, donc c'est applicable à chacun d'entre nous évidemment aussi, et un certain nombre d'entreprises ont compris que ça fonctionne mieux d'apprendre aux salariés à se serrer les coudes plutôt que d'entrer en compétition les uns avec les autres, d'enseigner l'encouragement et la valeur du groupe, de les valoriser, plutôt que de les évaluer seulement sur leur performance. Alors ça remonte, je crois, à peu près aux années 80, une époque à laquelle on a commencé à inclure le sport dans l'entreprise. Au début, c'était juste l'activité physique, hein, pas vraiment toutes ces valeurs qui sont derrière. On faisait des sorties de saut à l'élastique ou des cours de gym à la pause de midi. Et puis avec la montée de la pression du travail, des incertitudes économiques, il fallait donner plus de sens au travail. Les chefs d'entreprise sont donc allés chercher ce qui faisait le succès du sport, notamment des sports collectifs, aviron, hockey. Alors, il ne suffisait pas d'organiser des séminaires d'escalade ou de char à voile pour que ces valeurs infusent dans l'entreprise. C'est plutôt une révolution en douceur parce que ça induit un changement de mentalité, d'où le fait d'avoir un coach qui vient un peu jouer le rôle d'entraîneur, d'apporter des techniques et un changement de regard, et d'aider à ce que l'entreprise trouve le juste milieu entre l'esprit d'équipe et le goût de la performance.
Mmh. Merci. Hubert Ripoll, une réaction peut-être à cette chronique. Est-ce qu'on peut comparer comme ça le fonctionnement d'un champion avec celui d'un employé, d'un chef d'entreprise ? Est-ce que c'est si simple que cela ?
Oh oui, on peut assez bien comparer ce qui traverse un champion. Je vous ai dit, les champions ne sont que le reflet de nous-mêmes. Pour réussir, on a besoin de fonctionner dans un environnement équilibrant. Si vous allez au boulot avec la peur au ventre et que vous avez de très très mauvaises relations avec vos collègues de travail, vous ne pouvez pas réussir, ou alors c'est la souffrance absolue. De toute façon, vous n'irez pas à votre maximum. Écoutez, c'est exactement la même chose pour un champion. Autrement dit, les ingrédients qui sont nécessaires à la réussite d'un individu, d'un sportif ou d'une équipe sportive sont strictement les mêmes que ce qui se passe dans l'entreprise. Donc on peut vraiment aller chercher dans l'un ce qu'il faut inclure chez l'autre, et c'est très proche. Alors bien entendu, il y a la spécificité du sport, et là il faut aussi en tenir compte. Dans le sport, tout se joue en une fraction de seconde. Mmh. En une fraction de seconde, vous pouvez être au firmament ou être plongé dans les ténèbres. Une entreprise ne va pas connaître ça. Les entreprises vont mettre des mois avant de disparaître. Mais maintenant, les choses vont de plus en plus vite. On peut bâtir un empire en six mois de développement d'une entreprise. Et une entreprise peut être détruite en trois mois. Regardez Renault, ça n'a pas pris six mois d'un côté ni de l'autre, mais quand même c'est ce qui se passe. Et regardez les GAFA. Donc on est dans une accélération de tous nos processus, et qui fait que l'entreprise se rapproche de plus en plus du domaine du sport et donc vraiment on peut vraiment enrichir l'un vers l'autre.
Bon, pour en savoir plus, on se plonge dans votre ouvrage « Les champions et leurs émotions, comprendre la maîtrise de soi » qui compte de très beaux témoignages. Votre nouveau livre, donc Hubert Ripoll, paru aux éditions Payot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous par téléphone. Très bon week-end.
Merci.
Virginie, Henri, est-ce qu'il y a une chanson, vous, qui vous rend champion, championne, là, tout de suite, vous l'écoutez, vous sentez, vous pouvez battre tous les records?
We are the champions.
C'est vrai.
Survivor, The Eye of the Tiger.
Ah, pas mal aussi. Bon, pour moi, c'est celle-ci, je vous l'avoue. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground, and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds, and she's not backing down. This girl is on fire. Alicia Keys.